parents et enfants autour de la table. C'est l'heure de jouer. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, votre émission consacrée aux jeux de société modernes. Oyez, oyez ! Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux qui ont pour thème le Moyen-Âge ou le médiéval. Un thème que l'on retrouve beaucoup dans les jeux de société. Deux indispensables à votre ludothèque ont ce thème. On commencera avec Orléans, le jeu expert de cette émission, et Citadelle, un autre jeu indispensable et qui, comme Orléans, utilise la mécanique du backbuilding, c'est les charlatans de Belcastel. Je vous présenterai les alchimistes, la deuxième extension du jeu. D'ailleurs, au Moyen-Âge, de nombreux alchimistes sont médecins. Il faudra donc soigner des patients. Enfin, pour terminer, un jeu d'adresse, un vrai coup de cœur, notamment des enfants, Château et Catapulte, mon royaume pour un boulet. Et croyez-moi, eh bien, ça va envoyer. Mais c'est pas tout, puisque le chevalier Monsieur Guillaume de Trick Track sera mon invité. Alors Trick Track, hein, même si le site internet n'existait pas au Moyen-Âge, c'est certainement le premier à avoir parlé des jeux de société moderne. Il est temps de commencer cette émission numéro 105. Prenons ensemble la direction d'Orléans.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors au Moyen-Âge, Orléans est l'une des trois villes les plus riches de France. La ville doit son développement d'ailleurs dès l'Antiquité aux échanges commerciaux issus du fleuve. La ville d'Orléans est bien connue, évidemment grâce à Jeanne d'Arc, mais aussi grâce à Rainer Stockhausen, un auteur allemand qui a décidé en 2014 de créer un jeu de société sur cette ville française, Orléans. Un jeu édité par DLP Games, et c'est Matago qui se charge de le localiser en France. D'ailleurs, Orléans, une nouvelle génération, est sortie en 2020. Découvrons maintenant pourquoi Orléans est un jeu indispensable à votre ludothèque. Alors dans Orléans, vous allez devoir rassembler autour de vous des fermiers, des moines, des chevaliers, des artisans pour prendre le contrôle de la ville. La lutte sera compliquée, mais à vous d'avoir le plus d'influence pour l'emporter. Orléans est un jeu de gestion, mais en 2014, il instaure une nouvelle mécanique, le bag building. On connaissait le deck building, où l'on fait sa main avec des cartes. Dans le bag building, eh bien, les joueurs disposent d'un sac dans lequel ils mettent des tuiles ou des jetons et les piochent à leur tour. C'est le cas donc avec Orléans. En début de partie, chaque joueur commence avec 4 jetons, un fermier, un batelier, un artisan, un commerçant. On a aussi un plateau de jeu personnel, un petit peu d'argent, 5 sous, et un sac dans lequel on place les jetons partisans. Orléans, c'est 18 tours en 7 phases à chaque fois. Mais si la règle du jeu est simple, notamment grâce aux icônes sur les différents plateaux qui sont très explicites à comprendre, le jeu est profond et la stratégie sera au rendez-vous. On commencera à chaque tour par révéler un événement qui sera appliqué à la fin du tour. Exemple, à ce tour-ci, vous devrez payer des taxes sur vos marchandises. Puis le joueur qui sera le plus avancé sur l'échelle fermier reçoit un sou et le dernier en perd un. Vient la phase 3 et 4 que tous les joueurs feront ensemble. On va piocher des partisans dans notre sac. Alors au début forcément on n'en a pas beaucoup, mais plus le jeu avance et plus notre sac se remplit. On pourra en piocher 4 voire plus si on avance sur l'échelle des chevaliers. Ces partisans que vous venez de piocher, vous les posez sur votre plateau personnel au marché. Ils attendent pour aller au boulot. Ça tombe bien, c'est le moment. Vous allez aller les faire bosser. Pour ça, il suffit de prendre le jeton et de le poser sur un endroit possible de votre plateau, au village, au château, au monastère, à l'université entre autres. Les icônes sur votre plateau sont les mêmes que vos jetons partisans. À tour de rôle, maintenant vous allez résoudre les actions une par une. Exemple, pour avoir un fermier de plus dans mon sac que je prendrai dans la réserve des fermiers, près de la piste blanche, il faut que sur mon plateau j'ai posé un batelier et un artisan. Et à chaque fois que l'on va récupérer un nouveau jeton partisan, on avance sur la piste respective de celle-ci sur le grand plateau et on le met dans son sac. La piste des fermiers, la blanche, donne des ressources comme du blé, du fromage entre autres, en plus de gagner des sous selon sa position pour le tour suivant. La piste des artisans vous permet, elle, de récupérer un jeton technologie. C'est une petite roue qui se pose de manière permanente sur un des lieux de votre plateau personnel. Ça remplace n'importe quel partisan. La piste des commerçants vous permet d'ajouter un nouveau lieu à votre plateau personnel. La piste des bateliers, en bleu, elle vous donne des pièces. La piste des chevaliers, la rouge, augmente le nombre de jetons que vous avez le droit de piocher dans le sac. Et la piste des érudites, en gris, elle permet d'avancer sur la piste de développement. Alors c'est dur de faire des choix car finalement, toutes ces pistes sont indispensables pour gagner dans Orléans. Il faudra faire attention à ne pas en négliger certaines, et en plus de toutes ces pistes, il y a à côté une grande carte avec la ville d'Orléans et les différentes cités autour, reliées soit par la route, soit par un fleuve. Et c'est sur ce plateau qu'il y a de nombreuses marchandises qui vont être posées et que vous allez devoir récupérer. pour y aller, ça se passe en haut de votre plateau personnel. Par exemple, si vous souhaitez vous déplacer en bateau, il faudra mettre trois partisans, un fermier, un chevalier et un batelier. Pour le déplacement en charrette, à la place du batelier, un autre partisan sera nécessaire. Et puis, la guilde vous permet de poser des tavernes dans les villes où vous êtes, car c'est bien beau de voyager et d'essayer d'avoir de l'influence partout, mais faut penser aussi à se désaltérer. C'est tout ? Eh bien non, c'est pas tout. Un autre plateau est posé à côté. Vous y avez accès par votre plateau quand vous placez un de vos partisans à la mairie. Ça permet d'aller chercher quelques bonus comme des sous ou avancer sur la piste de développement. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Une fois au conseil, ce partisan par contre ne bouge plus. Vous pouvez plus le remettre dans votre sac. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait rien négliger dans Orléans. Vous le verrez, au moment du décompte des points, tout est important. Les marchandises, l'argent et les citoyens. Ah oui, je vous ai pas parlé des citoyens. Eux, ils sont disséminés un peu partout, hein, notamment sur les différentes pistes. Le premier arrivé, là où se trouve le jeton citoyen, le récupère tout simplement. Et dans le calcul, eh bien, on additionne ces tavernes avec le citoyen qu'on va multiplier par le chiffre de la piste de développement. Alors bien entendu, bah, les marchandises, ça compte aussi. Les sous, ça compte aussi. Je vous l'ai dit, on ne néglige rien dans Orléans. Alors on a fait une partie à 5. Je vous propose d'écouter l'avis de Karine, Hélène et Pascal. Alors là, on vient de faire une partie de Orléans à 5.
Il y a plusieurs différentes stratégies sur le plateau. En fait, soit on va construire pas mal... Moi, j'ai pas construit beaucoup de tavernes parce que j'étais un peu bloquée par les autres joueurs. Et du coup, je me suis concentrée sur d'autres actions. Donc, je me suis concentrée sur le batelier pour apporter des pièces. Et finalement, je pense que c'est ces pièces-là qui m'ont fait gagner.
Tu as avancé quand même aussi sur la piste de développement.
Oui, sur la piste de développement avec l'université et aussi sur les chevaliers qui m'ont bien aidé aussi au démarrage pour tirer plus de jetons.
Pareil, c'est quand même une histoire de chance puisqu'on doit tirer au sort des jetons. Donc aussi, il faut comprendre que bah, si on a moins de jetons, il faut peut-être plus aussi développer, aller chercher ces jetons-là. Donc voilà, beaucoup de stratégies à mettre en place et des stratégies différentes. Donc ce qui peut expliquer que certains ont pris plus d'avance que d'autres puisqu'on a eu des stratégies différentes.
Au-delà de ça, je trouve que c'est un jeu qui allie donc la stratégie et puis aussi la chance, puisqu'on se retrouve à piocher dans un sac opaque différentes pièces qui nous permettent du coup d'élaborer notre stratégie en fonction de ce qu'on pioche. Donc parfois on a des choses en tête qui peuvent pas se réaliser le tour d'après, ce qui amène pas mal de rebondissements aussi dans la partie. On sait vraiment qu'à la fin qui gagne, puisque là sur notre partie ça s'est joué à un point, donc c'est aussi intéressant de se dire que jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière manœuvre, en fait, on peut être le gagnant de l'histoire.
Allez, voici Kinvey avec Je garde le sourire. Orléans, en tout cas, un gros gros coup de cœur. D'ici 2 minutes, le chevalier Guillaume de Trictrac arrive sur l'antenne de Millennium. A tout de suite.
L'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine pour cette spéciale Moyen-Âge médiéval, c'est le chevalier Guillaume de Trictrac. Bonjour Guillaume.
Alors tu me dis chevalier, bonjour à tous, j'éviterai de te répondre bonjour à Saint-Denis aujourd'hui.
Oui, oui,
mais je vous salue bien bas.
Oui, c'est clair, vaut mieux éviter. Alors, comment t'es arrivé dans le monde du jeu? Je crois que tu étais chez Philosophia, il me semble. Hein.
Voilà, Philosophia qui est un éditeur canadien, entre guillemets, mais en fait auparavant, je suis arrivé dans le monde du jeu comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombé dedans tout petit et je garde des souvenirs particulièrement émus de mes parties de nain jaune ou de poker menteur, ouais, avec ma grand-mère paternelle. Et donc du coup, voilà, une famille où on jouait, même si c'était à des classiques ou des jeux de cartes et tout. Et puis derrière, j'ai rencontré les livres dont vous êtes le héros, les jeux de rôle, les jeux de société et après, ça a été l'escalade, quoi.
Alors, Trictrac, l'aventure a commencé quand ?
Alors, Trictrac, l'aventure a commencé il y a maintenant, je sais plus si c'est 6 ans ou 7 ans, mais en venant faire des vidéos pour expliquer les jeux de Philosophia, justement, il s'avère qu'à un moment donné, Monsieur Fall, qui était celui qui a fondé Trictrac, m'a contacté en disant, écoute, ça a l'air de te plaire comme exercice, l'animation, les vidéos, écrire sur des jeux, partager ta passion. Forcément, je lui ai dit que oui, et puis en l'occurrence, ça s'est concrétisé par un petit changement de boulot et je me suis retrouvé avec l'équipe Trictrac.
Alors, ton travail, c'est de jouer, du coup, quand tu es chez toi, tu joues encore ? T'as l'impression d'être au travail tout le temps ?
C'est génial, c'est exactement la bonne question. Eh bien, en fait, oui et non. Il a même fallu que l'on discute entre guillemets avec nos actuels propriétaires, puisque nous avons été rachetés par Acolé, pour leur dire, mais attendez, il y a une différence entre jouer parce que l'activité jeu est une activité libre, gratuite, que l'on décide de faire, et ça c'est quand je suis à la maison, ben je joue, et je joue de la façon, comme tout le monde en fait, je joue. Et puis il y a la façon, je joue parce que c'est mon boulot. Et là, c'est plus tout à fait la même chose, parce que je dois le faire pour pouvoir en parler. Alors on va se dire, bah oui, mais c'est quand même pas désagréable, on va pas se fouetter pour jouer. Non, c'est vrai, on ne le souhaite pas pour jouer, mais il faut se mettre dans la même position que des athlètes, entre guillemets, qui vont faire du sport, même quand ils en ont pas envie, mais parce que c'est leur boulot, c'est comme ça, il faut qu'ils se maintiennent. Et puis celui qui va courir quand il en a envie, ou qui fait du vélo quand il en a envie, pour se maintenir en forme, parce qu'il aime ça, etc. Donc du coup, oui, c'est vrai, c'est du jeu, et puis en même temps, ben c'est du boulot, donc du coup, c'est un petit peu un décalage, donc il faut garder du recul pour continuer de garder la passion. Bref, c'est une belle petite alchimie à conserver.
Et puis, alors, des fois, c'est sûr, hein, c'est du boulot, parce que bah, t'as envie de jouer, mais t'as pas forcément envie de lire 30 pages de règles.
Alors, t'as pas forcément envie de lire 30 pages de règles, t'as pas envie de jouer à ce jeu de gestion, parce que là, visiblement, t'as la tête qui est complètement en marmelade, tu préférerais faire un jeu d'ambiance ou un petit jeu léger. Ouais. Mais non, c'est pas celui que tu veux, c'est pas celui auquel tu aurais, entre guillemets, besoin de jouer pour te vider la tête. Non, c'est celui qui est dans l'actualité, non, c'est celui qui est programmé parce qu'il y a une vidéo derrière, ou un article, etc. Et donc, du coup, oui, effectivement, ça te fait aborder le jeu d'une façon qui peut être complètement particulière.
Alors, Trick Track a été le premier à faire des vidéos, à parler de jeux de société sur Internet, j'allais dire sur les réseaux, mais c'est plutôt même sur Internet. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi qu'il y en ait d'autres aujourd'hui?
Ah, largement. Largement. Effectivement, Fall a eu ce parcours, un petit peu ce destin très particulier qui a amené à ce que Trick Track, qui n'était qu'un tout petit bout d'un site commercial sur Orléans, devienne Trick Track. Mais en même temps, au-delà de cette première idée, ben maintenant, ça se démocratise même plus que largement. Ça va même parfois un petit peu loin, puisqu'on se rend compte que d'aucuns se mettent à lorgner du côté des influenceurs, youtubeurs, youtubeuses. Et c'est normal, c'est pas une critique. Se mettent à lorgner côté de sociétés parce que c'est in, c'est bon, c'est populaire. Et, ouais. Et puis quelque part, il y a aussi de l'argent. Et c'est normal quand on travaille de savoir où est-ce qu'on peut aller gagner sa vie. Mais même en allant là, même en parlant d'influenceur, parce que moi, j'aime pas ce mot-là, c'est plutôt bien que ce domaine, ce jeu de société se démocratise, parce que ça donne une pluralité au jeu et à l'expression sur le jeu. Et ça, c'est très bien, puisque je défends le fait qu'un jeu ne puisse pas être, pardon pour ceux qui m'écoutent à l'antenne, un jeu merdique ou pas bon, parce qu'en fait, ce n'est pas le jeu qui n'est pas bon, c'est la partie qui va pas être bonne, qui va pas être partagée avec les bonnes personnes ou au bon moment. Il y a des jeux qui ne nous correspondent pas, mais il n'y a pas de fort, fort mauvais jeu. Et donc, du coup, qu'il y ait une pluralité de gens qui s'expriment dessus, eh ben, c'est génial parce que ça fait découvrir à encore plus de gens que cette activité-là est une activité sociale, est une activité qui fait du bien et qui est une activité en plus qui nous enrichit. C'est-à-dire que dans n'importe quel jeu, on apprend des trucs. On apprend des trucs sur soi-même, on apprend des trucs sur l'autre, on apprend des trucs sur une période historique, sur de la gestion, peu importe. Et donc, du coup, oui, je trouve que c'est très bien qu'il y ait toutes ces voies-là pour s'exprimer autour du jeu.
Tu regardes, toi, les autres vidéos, les blogs. C'est difficile de se renouveler?
Alors, c'est pas évident de se renouveler, oui, parce qu'il y a des choses dans lesquelles on est à l'aise. On parle régulièrement de zone de confort et on se dit, bah oui, mais dans une zone de confort, c'est aussi comme ça qu'on va s'endormir bien au chaud au coin du feu. Donc, se renouveler n'est pas facile. En même temps, copier n'est pas une bonne idée. Donc, ça veut dire qu'aller regarder les autres et puis essayer de faire pareil, et ben c'est pareil, on n'est pas soi-même non plus, donc c'est pas non plus une bonne idée. Mais je passe pas ma vie non plus à regarder mes propres vidéos, donc je vais pas regarder non plus et passer ma vie à regarder les vidéos des autres. S'il y a un sujet qui m'intéresse, j'y vais, donc sinon je vais pas me forcer. Mais malgré tout, il y a aussi une veille concurrentielle, si on peut l'appeler comme ça, mais c'est surtout que ça permet de prendre encore plus facilement du recul. Et moi, dans mon cas en tout cas, de me dire, parce que peut-être que ça arrivera, j'ai plus ma place, c'est plus à moi, c'est plus comme ça, c'est plus dans le vent, ou alors c'est ne rêvons pas à des millions de personnes. Non, on s'adresse à ceux qui aiment le jeu de telle ou telle façon. Bref, ça remet aussi les choses à sa place. Et ça, je pense que l'humilité, même si le mot est un petit peu suranné maintenant, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup.
Et c'est compliqué de trouver le bon format. Vous avez tenté de nombreux formats. Lesquels, pour toi, ont fonctionné?
Alors, ceux qui ont fonctionné et qui peut-être refonctionneront, les exclus parties et les potages. Les exclus parties, c'est celles qui permettent d'expliquer le jeu et en y jouant, entre guillemets, et donc de donner un élément de règle, pas in extenso, parce que rien n'empêche de retravailler les règles, parce qu'il y a des tas de petits points de règles, même quand on est super prêt, qu'on oublie ou qu'on fait pas bien, et en même temps de sentir un peu l'ambiance. Je considère que c'est en ce sens-là que je ne suis pas un influenceur, je ne veux pas dire « moi je me suis éclaté, donc achetez-le, vous allez vous éclater », non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, vous avez vu comment le jeu tourne, donc posez-vous la question, est-ce que vous, ça va bien tourner aussi, ouais, avec vous, avec vos joueurs, etc., etc. Donc l'esprit parti. Et puis le papotage fonctionne bien parce que ça donne aussi de l'humain aux jeux de société. Derrière nos boîtes, il y a qui ? Derrière nos boîtes, il y a quelle histoire ? Et se faire raconter ces histoires-là et découvrir les gens, bah, visiblement, ça intéresse. Et puis enfin, là, dernièrement, dans les évolutions, les avis de la rédac. C'est-à-dire que les moments où, justement, on s'engage un petit peu plus de façon personnelle en disant bah, « moi, en tant que joueur, j'ai bien aimé ça », mais en gardant toujours un peu ce recul pour se dire « oula, par contre, attention ». Je ne suis pas en train de vous dire achetez-le ou ne l'achetez pas. Je suis juste en train de vous dire ce que j'ai aimé parce que vous allez pouvoir vous dire ah ben non, moi ça j'aime pas, ou ce que je n'ai pas aimé parce que là vous allez pouvoir vous dire ah ben moi ça j'aime bien. Et donc du coup, permettre de donner une information qui n'est pas une recommandation d'achat, mais qui est une information pour prendre du recul et savoir si le jeu est fait pour vous, pour toi, pour tes auditeurs, auditrices, etc., etc.
Est-ce que le fait qu'Asmodée hein, a racheté Trick Track change beaucoup de choses ? Est-ce que ça donne aussi plus de possibilités ?
Eh ben, écoute, avec le recul, en tout cas à l'heure actuelle, donc au moment où on se parle, 2021, moitié de mi-année, ça pourrait, mais en même temps, ça met aussi beaucoup de bâtons dans les roues, au sens où nous, ça nous demande une bataille pour dire non, là, vous êtes en train de nous demander de faire de la communication qui est de la publicité, et non, ce n'est pas de l'éditorial. Donc faites-le, mais à ce moment-là, montez une agence de com. Nous, si on veut garder de l'éditorial, et si je considère moi que c'est important, et si je veux garder la confiance à la fois des auditeurs et des auditrices de Trick Track, à la fois des éditeurs et éditrices avec lesquels on travaille, je ne veux pas m'engager sur autre chose que de l'éditorial et pas de la pub, de la com ou du marketing. Bien sûr que l'éditorial, c'est de la communication, puisqu'on parle d'un jeu, bah, on parle de lui. Donc, comme dirait Madame Streisand, parlez de moi en mal ou parlez de moi en bien, mais parlez de moi. Bien sûr que c'est de la communication, mais je ne veux pas que cette communication elle soit dictée par quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça demande une petite bataille pour bien repositionner les éléments, les uns par rapport aux autres, les volontés des uns par rapport aux volontés des autres. Après, ça pourrait donner des facilités si effectivement, tout d'un coup, le propriétaire se disait « mais je sais qu'un média est quelque chose qui coûte et donc je ne cherche pas à le rendre, on va dire, pérenne financièrement parlant ». Là, pour le coup, en l'occurrence, dans le milieu actuel, vu que ça se démocratise, c'est pas le cas. Puisqu'il y a des tas de youtubeurs, youtubeuses qui veulent bien faire des vidéos en échange d'une boîte gratuite, d'un service presse, et ben, pourquoi est-ce que j'irais payer quelqu'un pour parler des jeux? Autant que je, voilà, une boîte de jeux, ça coûte 3 euros, 4 euros, 5 euros à produire, plus les frais d'envoi. Bon, ben, pour 15, 20 euros, tu peux toucher plein de monde. Ouais. Alors que toucher, entre guillemets, quelqu'un, demander une émission, etc., et puis se dire, bah attends, pourquoi je vais mettre 500 euros, 1000 euros, 1500 euros? C'est pas la peine de faire de la com, je l'ai à moins cher. Donc, oui, ça peut, les choses évoluent, et même si je le comprends, au sein d'une entreprise, bah, ça ne rend pas forcément les choses les plus faciles.
Et les éditeurs payent aujourd'hui certaines chaînes YouTube pour faire vivre justement la chaîne?
Ben alors là, les questions peuvent se poser. Qu'est-ce qu'on appelle vivre ? C'est-à-dire, est-ce que la chaîne YouTube demande quelque chose au-delà de la boîte gratuite ? Et puis, est-ce qu'on considère que la boîte gratuite est un élément quelque part payant et engageant ? Moi, sincèrement, qu'on me dise ben, « tu es acheté » entre guillemets parce qu'on t'a offert la boîte, ça veut dire que mon honneur ne vaudrait pas grand-chose. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est que mon honneur, il est entre 6 et 10 euros. Bah, j'espère que mon honneur vaut plus que ça. Donc, du coup, c'est pas parce que la boîte, elle est en service presse. C'est comme si on me donnait un outil pour travailler. Bah, c'est pas parce qu'on m'a donné un outil pour travailler que mon travail, il va changer, sur la façon que j'ai de le faire. Que des youtubeurs et des youtubeuses demandent, parce qu'ils se considèrent en influenceurs et influenceuses et parce qu'ils ont un potentiel public, bah, peut-être. Et c'est normal aussi que, on puisse dire, bah, moi, ce que je veux, c'est toucher ton public et je suis prêt à mettre de l'argent pour toucher ton public. Donc, c'est ce qui existe, hein. Ça arrive. Sur Trick Track, pour l'instant, c'est plus le cas.
C'était le cas avant.
Ça l'a été avant d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, on demandait aux éditeurs qui voulaient venir en disant, bah écoutez, voilà, ça peut vous coûter. Vous avez un créneau d'une demi-journée, par exemple. Mmh. Ça a commencé à 500, puis c'est monté à 750 euros. Il y a 750 euros sur la demi-journée. Mais quand vous venez pour faire la demi-journée, ben voilà, sur le temps de tournage, ça c'est notre travail. Et notre travail, nous, c'est l'éditorial. Donc, on va en parler. C'est nous qui allons animer. C'est nous qui allons le faire à notre sauce. Par contre, l'argent qu'on vous demande, en fait, on ne veut pas que ce soit un argent éditorialisé. Donc, du coup, communication, entre guillemets, donc qui influence, entre guillemets, notre éditorial. Donc, en fait, cet argent que vous mettez en jeu, il va permettre de faire vivre le site de la façon suivante. En libérant la vidéo, puisqu'à l'époque, on avait des abonnés pour tout le monde. Donc, ça veut dire que, ben, sinon, ne payez pas, et puis il y a que les abonnés qui auront le droit à cette vidéo.
Ouais.
Et puis sinon, ben, vous payez et ça permet de la libérer à tout le monde. Et en plus, ça vous permet d'avoir un service supplémentaire qui est de libérer la HD. Comme on intégrait toutes nos vidéos à nos sites, à notre site, eh bien, on payait, entre guillemets, les serveurs, etc. Et donc, du coup, la qualité de la vidéo qui mange de la bande passante, eh bien, du coup, on disait, bon, ben, il y a une partie de cet argent qui nous fait vivre, hein, bien sûr, hein, c'est pas pour le cacher, mais qui ne sera pas pour l'éditorial, qui sera pour un service de HD, entre guillemets, en termes de vidéo. Eh bien, ça, cette partie-là, pour l'instant, nous, on l'a mis complètement de côté en disant, non, soyons, revenons à quelque chose qui est, revenons, c'est pas revenons parce que ça l'était déjà, mais vu ce qui se passe actuellement, mettons l'éditorial au centre, et s'il y a besoin d'une régie publicitaire, parce que c'est la publicité qui effectivement fait vivre les médias ou les autres choses, ouais. Eh bien, il y aura une régie publicitaire, mais qui n'intervient pas dans l'éditorial.
Ouais.
Vous mettez des pubs sur TrickTrack, vous nous donnez une vidéo parce que vous avez envie qu'elle passe juste avant nos petites vidéos à tel endroit ou à tel endroit. Ok, ça c'est vous. Vous faites votre com. C'est votre publicité. Et ça, c'est normal. Mais comme c'est sur notre média, ben, ça nous fait vivre et donc vous payez pour ça. Par contre, notre éditorial, eh ben, pour l'instant, on y réfléchit encore, hein, c'est pas acté, c'est nada.
D'accord. Justement mettre sur TrickTrack, c'est combien de visiteurs par mois TrickTrack?
Alors ça a évolué par mois, je voudrais pas te dire de bêtises, mais on a frôlé allègrement les 5,5 millions IP uniques annuels.
D'accord.
Là on est un peu là-dessus c'est pareil, il y a rien à se cacher, mais on est un peu redescendu, donc on est dans en fonction, donc ça veut dire que ça, il y a des projections, il faudrait que je leur divise par 12 et je vais le diviser par 10, c'est pas une bonne idée, mais grosso modo ça fait entre 350 000 et 400 000 visites mensuelles.
D'accord.
En comptant des IP uniques qui du coup après s'accumulent et avec une consommation qui est très particulière, c'est-à-dire que la majorité se fait encore et beaucoup, même davantage d'ailleurs, je devrais le dire, sur la consultation des fiches, sur les avis, les avis laissés par la communauté, les joueurs, les joueuses et tout. Et du coup, on sent vraiment qu'il y a cette volonté de se renseigner sur le jeu de société. Il y a une grande partie encore qui se fait sur les forums. On pourrait croire que les forums sont morts parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont moins vivaces qu'ils ont pu l'être avant les réseaux sociaux, bien sûr, mais il y a encore une partie qui est content de se retrouver comme ça entre, on va dire, entre connaisseurs, c'est pas dans l'entre-soi, mais où on peut parler vite et puis demander vite et obtenir vite des réponses sans la trop grande rapidité parfois des réseaux sociaux. Donc voilà, la consommation, il y a encore toute ce dynamisme et cette vivacité autour du jeu de société sur TrickTrack, et ça c'est vraiment pour nous c'est un soutien réel, hein, parce que ben du coup on se dit que il y a encore des gens qui ont un service rendu, on va dire, entre guillemets, sans se la raconter, grâce à TrickTrack. Et ça, c'est plutôt cool.
Alors, vous recevez énormément de jeux, je suppose. C'est difficile de tout tester. Et puis, il y en a peut-être que vous laissez de côté.
Oui, on est obligé.
Ouais.
On est obligé pour deux raisons. La première, qui est une raison éditoriale. C'est-à-dire que si un jeu tombe trop à côté, parce qu'il y a des jeux, c'est pareil, on ne va pas se mentir. Ils ont certainement leur public, donc je ne veux pas cracher dessus, mais ça va être un jeu qui va être un jeu plus commercial ou en tout cas plus grand public à destination d'une grande surface spécialisée ou d'une grande surface alimentaire plutôt qu'un ludicaire spécialisé.
Ouais.
Donc,
on a perdu Guillaume, on va essayer de le retrouver tout à l'heure. En attendant, c'est Dua Lipa qui arrive avec Love Again. Et puis, on se retrouve juste après, alors soit avec Guillaume, soit je vous parlerai des Alchimistes, qui est la deuxième extension des Charlatans de Belcastel.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Les Alchimistes, deuxième extension pour les Charlatans de Belcastel. Alors pour rappel, les Charlatans de Belcastel, c'est un jeu de stop ou encore, où chaque joueur va avoir un sac d'ingrédients et va les piocher un à un. Mais à un moment, il faut s'arrêter, sinon votre chaudron peut exploser, notamment si vous avez 7 jetons blancs. Tout au long de la partie, hein, vous allez rajouter des jetons ingrédients dans le sac. Je vous invite d'ailleurs à réécouter tout simplement le podcast de l'émission avec la présentation de ce jeu de Wolfgang Warch. Alors Schmitt nous sort une deuxième extension après les sorcières sans mêle. Voici les alchimistes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la première extension pour ajouter les alchimistes, même s'il faudra enlever certaines cartes. Dans les alchimistes, au-dessus du chaudron désormais, vous allez rajouter un flacon d'alchimiste. En début de partie, vous allez choisir ensemble 3 patients à traiter. Alors au hasard, parmi 8 personnes, chaque patient a besoin d'une essence spéciale pour la guérison. Il y a alors divers bonus pour la production de cette essence dans le flacon de l'alchimiste. Alors comment on joue ? Avec cette extension, chaque joueur prend la carte d'essence correspondante et la place sur ce nouveau plateau. Toutes les cartes sont différentes. Chez les alchimistes, une phase supplémentaire, à savoir la phase d'essence, entre en jeu. Elle a lieu après la phase habituelle de préparation et juste avant l'annotation. Pour la distillation de l'essence, vous comptez le nombre d'ingrédients différents placés dans votre chaudron, mais sans les jetons blancs, eux sont comptés après. Puis vous placez le marqueur d'essence sur la case correspondante de votre flacon. Alors par exemple, vous avez dans votre chaudron des jetons vert, orange et bleu, bien vous avancez 2-3 cases puisque vous avez 3 couleurs. Si la valeur de vos pions blancs dans le chaudron est exactement de 7, vous pouvez avancer le marqueur d'essence d'une case et pour chaque chaudron explosé des deux voisins à gauche et à droite, vous pouvez avancer votre marqueur d'essence d'une case supplémentaire. Bah oui, parce qu'il faut savoir que si vous avez plus que 7, le chaudron explose. Ensuite, vous suivez le tube de verre de votre flacon relié à la carte essence que vous avez mis en début de partie et vous pouvez voir ensuite si ça mène à un bonus. Puis recevoir ce bonus permet différentes choses comme avancer votre rein pour la prochaine manche. C'est pas négligeable. À noter également, il y a aussi une phase d'essence dans le 9e et dernier tour du jeu. Alors dans ce tour, cependant, plus aucun bonus n'est payé à la place. En revanche, à chaque fois que vous allez avancer votre jeton sur le flacon de l'alchimiste, ça vous rapporte un point de victoire. Donc c'est plutôt pas mal. Cette extension, les alchimistes changent la donne car tous les joueurs n'auront pas la même règle en fonction de la carte posée dans leur labo. En plus du matériel du jeu de base, il y a quelques cartes de divination supplémentaires, un marqueur d'essence et un ensemble de cartes essence. Et puis cette nouvelle extension rajoute encore plus de chou des fous, le nouvel ingrédient qui était apparu dans la première extension, les sorcières sans mêle. Alors j'ai bien aimé cette extension qui renouvelle cet excellent jeu de Stop ou encore qui avait obtenu d'ailleurs le Kenner Spiel en 2018. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes sur Millennium. Voici Thérapie Taxi avec Été 90.
C'est ludique, l'indispensable de ta ludothèque.
Alors pour cette spéciale Moyen-Âge et médiéval, je vous propose maintenant de vous emmener visiter Citadel, un jeu de Roberto Feduti et distribué par Asmodée. Alors dans Citadel, les joueurs choisissent à tour de rôle une carte personnage, ramassent de l'or et s'ils veulent, ou le peuvent surtout, construisent des quartiers dans leur propre ville. En début de partie, chaque joueur reçoit 2 pièces d'or et va récupérer 4 cartes quartiers. Sur ces quartiers, il y a des pièces d'or, c'est le coût pour l'acquérir, sachant que la partie s'arrêtera quand l'un des joueurs a construit 7 quartiers différents. Alors on va y revenir, mais on va commencer par placer les tuiles personnages dans l'ordre de leur numéro. L'assassin en premier, puis viendra le voleur, la magicienne, le roi, le prêtre, le marchand, l'architecte. Il y a plein de personnages possibles, ce qui permet une bonne rejouabilité. On en place 8 ou 9 selon le nombre de joueurs. Mais ce qui est important, c'est de prendre les tuiles et les cartes personnages correspondantes. Au début de chaque tour, celui qui a choisi le personnage roi du tour précédent commence le jeu. Ce joueur va examiner les cartes disponibles et en choisira une, puis passera le paquet de personnages au joueur à sa gauche. Cela continue jusqu'à ce que tout le monde ait choisi un personnage et que le dernier joueur place le reste de côté. C'est important de faire le bon choix car chaque personnage a des pouvoirs et des capacités spéciales. On en découvrira quelques-uns après. Le premier joueur à prendre une carte a un avantage par rapport aux autres, il choisit en premier. En revanche, plus on va vers le dernier joueur et plus on sait ce que les autres ont pris forcément. Ensuite, c'est le moment de l'appel, un peu comme à l'école, et c'est le joueur avec la couronne qui fait l'appel. Le joueur qui a choisi le personnage du roi appelle donc les numéros de 1 à 8 ou de 1 à 9. Le 1 est appelé, il joue. En l'espèce, c'est celui qui a pris l'assassin qui va commencer la partie. En gros, si vous voulez jouer en premier, prenez l'assassin qui a un pouvoir très important. Sa capacité lui permet d'appeler une autre carte personnage qu'il tue directement quand celui-ci sera dévoilé. Conclusion, si c'est vous, eh bien, vous devrez sauter votre tour. Et ça, c'est moins cool. Si vous êtes le voleur, vous pouvez voler l'or d'un autre joueur. Le magicien peut échanger sa main avec un autre joueur. L'évêque vous donnera une pièce pour chaque quartier bleu que vous avez, tandis que la marchande, ça sera pour chaque quartier vert. Justement, parlons des quartiers indiqués sur vos cartes. Il y a les quartiers jaunes, le quartier noble, le bleu, le quartier religieux, le vert, le quartier commerçant, le rouge, c'est le district militaire, et le rose, violet, hein, c'est les quartiers spéciaux qui ont des règles spéciales et qui vous font gagner des points en fin de partie, notamment. Alors comment ça se passe un tour ? Eh bien c'est très simple. Si vous êtes appelé, vous pouvez faire deux actions qui consistent soit prendre deux pièces d'or à la banque, ou piocher deux cartes quartier, mais vous n'en garderez qu'une seule. Puis vous pouvez construire un quartier de votre ville en jouant une carte, pour ça il faut payer le coût. Si vous ne pouvez pas payer, bah ça sera la prochaine fois, c'est pas grave. Et puis, vous pouvez, si vous le décidez, utiliser la capacité de votre carte personnage. Attention, elle n'est utilisable qu'une seule fois par tour, bien entendu. Vous avez construit un septième quartier différent dans votre ville, et bien la partie s'arrête. Mais c'est pas forcément vous qui allez être le grand gagnant du jeu, hein. Tout dépendra de ce que vous avez construit. Chaque joueur recevra un nombre de points égal au coût en or de tous les quartiers de sa ville. Si un quartier coûte 3 pièces à construire, et bien ça vous rapporte 3 points. Construire un ensemble complet des 5 couleurs accorde un bonus supplémentaire de 3 points. Le premier joueur à construire 7 quartiers dans une ville, lui, gagne 4 points de bonus supplémentaires. Et les autres joueurs qui parviennent dans le même tour à construire ces 7 quartiers reçoivent un bonus de 2 points. Voilà, bah on fait le calcul de tout ça. Et le grand gagnant, tout simplement, est déclaré. Toutes ces cartes personnages permettent une énorme rejouabilité. Voilà pourquoi Citadel fait partie des indispensables de ces ludiques. Mais ce n'est pas si facile que ça de tout maîtriser au début. Pour vos premières parties, on vous indiquera avec quel personnage jouer pour rendre plus simple le jeu. En tout cas, Citadel, un jeu à avoir dans sa ludothèque. Allez, on revient d'ici quelques minutes avec un gros coup de cœur des enfants. C'est une nouveauté, hein. Ça s'appelle Château et Catapulte.
Si ludique, ça vient de sortir.
Alors juste avant de parler de Château et Catapulte, on a perdu un Guillaume de Trictrac, c'est sûr. En tout cas, c'est le Moyen-Âge, c'est une spéciale médiévale et peut-être que les téléphones n'ont plus de batterie et c'est compliqué à cette époque-là de recharger sa batterie, surtout à vrai dire même d'avoir un téléphone. On aura l'occasion de reparler avec Guillaume prochainement. Alors pour finir, je vais vous parler maintenant du gros coup de cœur de mes enfants, aussi bien du petit que du grand, pour dire ils n'arrêtent pas d'y jouer. Localisé en France par les Lucky Duck Games, voici Château et Catapulte, mon royaume pour un boulet. Alors ce jeu de Christian Foch est un jeu d'adresse pour deux joueurs. D'un côté il y a l'équipe du général de Chauffort et de l'autre celui de Cunningfield. Chacun récupère ses briques pour construire son château et ses soldats. Le but est simple, hein, il faudra détruire le château de votre adversaire à coup de catapulte en lançant des boulets. Mais pas que, hein, puisque pour gagner, il faudra aussi faire tomber tous les soldats adverses. Alors important, afin de jouer dans des conditions optimales, il faut avoir une distance de 1m50 entre les deux châteaux, retirer la belle vaisselle de maman, et puis c'est parfait. Le mieux, hein, c'est de jouer par terre. Ça me rappelle d'ailleurs, moi, les combats de Playmobil. Alors attention, il y a des raids, hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, c'est chacun votre tour, vous pourrez lancer un boulet. Pas de panique, hein, ils sont en caoutchouc, alors même si vous le prenez dans la tête, ça ne fait pas mal. Et à vrai dire, si vous le prenez dans la tête, eh bien c'est que votre adversaire ne s'est pas visé. Mais en plus de votre plateau, là où vous construisez votre château, vous allez recevoir des cartes. Alors ces cartes actions vous permettent de faire des choses en plus avant votre lancer, comme lancer deux fois un boulet. Prendre la catapulte de l'autre et lancer sur son château, reconstruire son château, c'est plutôt pas mal, changer ses soldats de place ou encore voler une carte à l'autre. En début de partie, vous en prenez 3, à chaque fois que vous en utilisez une, vous la défaussez. Et si un soldat venait à mourir dans votre château, vous pouvez reprendre une carte de votre main et l'ajouter. Donc tout ce qui est hors du plateau, suite à une attaque, est retiré et mis à la poubelle. Non, dans la boîte, pas à la poubelle, hein, sinon ça va être compliqué de jouer après. Vous l'avez compris, celui qui n'a plus de soldats doit s'avouer vaincu et perd la partie. Mais il y aura une revanche et c'est sûr, on va construire un nouveau château qu'on espère hein, qui sera encore plus solide. Alors je vous le dis franchement, mes enfants utilisent rarement les cartes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est utiliser la catapulte. Ils ne veulent pas réfléchir à une stratégie particulière. Leur but est de détruire le château de l'autre. Alors je vous avoue, en tant que parent, on se prend rapidement au jeu. Et quel bonheur quand il ne vous reste que plus qu'un soldat et que votre adversaire en a encore deux, mais que d'un coup de boulet, ça tombe sur une brique et qui fait tomber les deux derniers soldats. Château et Catapulte est un jeu accessible avec du matériel de très bonne qualité. En plus, l'éditeur a tout prévu, hein. Il sait que les élastiques vont s'user, alors il a fourni deux autres paires. Château et Catapulte, un must pour les enfants et un retour en enfance pour les parents. Et c'est Johan qui a joué à Château et Catapulte et il nous donne son avis. Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors Johan, on vient de jouer à quoi ?
Château et Catapulte.
Alors, est-ce que c'est un jeu que t'aimes bien déjà ?
Oui, c'est mon préféré.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Château et Catapulte ?
Il faut détruire le château de l'autre. Plus précisément, il faut tuer tous ces bonhommes.
Ah ouais ? Et comment on fait alors ?
En fait, on a une catapulte.
Ouais.
Il faut que tu tires sur son château pour voir ses bonhommes. Et comme ça, et s'il y a un bonhomme qui tombe, tu le mets de côté.
D'accord.
T'en as 5. Si les 5 ils sont tombés, t'as perdu.
Et alors, est-ce que c'est un jeu que t'as réussi ou...
Ah oui, je suis très fort.
Ah, t'es très fort ?
Ma stratégie, eh ben, je fais derrière mon château, c'est mieux.
Et avec qui tu joues à Château et Catapulte ?
Avec mon papa et mon frère.
D'accord, et qui est le plus fort ?
Mon frère.
Ah ouais ? Il t'a battu plein de fois ?
Non, on a le même potentiel.
D'accord, merci Johan.
De rien.
Et ben voilà, Château et Catapulte, donc un jeu qui sort chez les Lucky Dot Games d'ici quelques jours. Voilà, c'est ludique, c'est terminé. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour fêter l'anniversaire, les 15 ans des aventuriers du rail. Salut, à la semaine prochaine et jouez bien !